God, look at that picture over there. Earth coming up. Wow, is that pretty. Hand me a roll of color quick.
Oh, man, that's great. Cool. Where is it?
Quick, just grab me a color.
Bill, I got it framed. It's very clear right here. You got it?
Yep.
Voilà, alors c'est l'astronaute Bill Anders qui découvre et photographie pour la première fois un lever de Terre. C'était le 24 décembre 1968. Vous avez tous vu cette photo et Axel Villard à la une aujourd'hui. Eh bien, c'est le récit justement de la mission Apollo 8 et c'était il y a tout juste 50 ans.
Et tout commence le 21 décembre 68. Trois Américains, Frank Borman, James Lovell, Bill Anders, partent à bord de la fusée Saturn V pour faire le tour de la Lune. Une mission qui a une chance sur deux d'être un suicide, on le sait, mais la course avec les Russes est plus importante. On y va quand même. À l'heure où nous nous parlons, les trois hommes sont en orbite autour de la Terre et se préparent à faire la grande traversée. Et pour raconter la suite, nous accueillons quelqu'un qui la connaît bien mieux que moi, Philippe Hénarejos. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur du magazine Ciel et Espace qui s'est transformé ce mois-ci en revue historique puisque vous retracez en détail cette mission fondatrice. Et on découvre au début du dossier que c'est l'histoire d'un départ précipité et extrêmement risqué.
Oui, parce que en fait, il n'était pas prévu qu'en décembre 68, les Américains envoient une mission vers la Lune. Ils devaient encore reconstituer un certain nombre d'expériences autour de la Terre et notamment tester le module lunaire à très haute altitude, mais autour de la Terre. Il se trouve que le module lunaire, donc l'engin qui doit permettre à deux astronautes de se poser sur la Lune, n'était pas du tout au point. C'était une véritable catastrophe, la mise au point de ce module lunaire. Et qu'en même temps, au mois de mars 1968, les Russes avaient déjà envoyé un vaisseau automatique faire le tour de la Lune. C'était un Soyouz allégé. Et les Américains se sont fait une frayeur à ce moment-là parce qu'ils ont entendu des cosmonautes discuter avec le centre de contrôle russe et ils pensaient qu'il y avait du monde à bord.
Or, c'est ça, ouais.
En fait, ils essayaient la chaîne de communication. Ils avaient intercepté les communications, les Américains. Et donc, vu le retard et vu que les Russes risquaient encore une fois d'être les premiers, je rappelle, le premier Spoutnik, premier homme dans l'espace, premier homme à sortir dans l'espace scaphandre, donc ça en était trop. Il y a un des hauts responsables de la NASA, George Lowe, qui était un ingénieur très brillant, qui au mois d'août dit le module lunaire n'est pas prêt, on va quand même faire le voyage, ça nous apprendra comment on va vers la Lune et on attendra pour le module lunaire plus tard. Alors l'administrateur de la NASA à l'époque lui répond qu'il est complètement fou, que enfin ils ont peur vu cette proposition assez hardie. Et finalement, en réfléchissant, en pesant le pour le contre, les Russes, le retard, etc. Fallait quand même avancer. Ils ont dit « Ok, on y va ».
Malgré les risques, parce que les calculs sont faits et ils savent en partant qu'ils ont de grandes chances de ne pas revenir.
Le risque, il est énorme parce que la fusée qui doit les propulser, elle s'appelle la Saturn V, c'est un énorme vaisseau. Il n'y a pas eu de fusée aussi grosse depuis. 111 mètres de haut, 10 mètres de diamètre, 3000 tonnes au décollage. Et donc cette fusée, elle a volé deux fois sans équipage. Et le deuxième vol a failli tourner à la catastrophe, ça marchait vraiment pas bien. Et donc au cours du troisième vol, on met les trois hommes dedans et on leur dit « vous partez vers la Lune ».
Bonne chance les gars.
Et le décollage est réussi puisqu'à l'heure où nous nous parlons il y a 50 ans, les hommes ont coupé les moteurs, ils tournent autour de la Terre et ils se préparent à traverser. Pourquoi ils attendent pour aller vers la Lune ?
Alors ils attendent parce que ils doivent faire une orbite et demie à peu près pour vérifier que tout va bien à bord, que les moteurs fonctionnent, que tous les systèmes sont opérationnels, avant de se lancer sur cette trajectoire qui va les amener à s'arracher à l'attraction terrestre et à partir vers la Lune. Personne n'a jamais fait ça avec un équipage. Et une fois qu'on est lancé sur cette trajectoire, il est bien difficile de faire demi-tour. On le verra d'ailleurs plus tard, en 1970, avec Apollo 13, quand il y a un gros problème à bord. Ils sont obligés d'aller contourner la Lune pour revenir. Donc on prend une orbite et demie, et surtout Frank Borman, qui est le commandant, est un astronaute qui a déjà beaucoup d'expérience et qui est très méticuleux, très précautionné. Il veut absolument que tout soit prêt, parce que une fois lancé vers la Lune, leur sort ne dépendra plus que d'un seul moteur, le SPS. C'est un moteur unique qui propulse la capsule, qui doit s'allumer pour les insérer en orbite lunaire et qui doit aussi se rallumer pour leur permettre de revenir vers la Terre. Il n'y a pas de moteur de secours. Donc si ce moteur ne fonctionne pas, ils peuvent être perdus dans l'espace, ils peuvent s'écraser sur la Lune et ils peuvent aussi mourir en orbite lunaire.
Quand on dit que la mission, c'est de découvrir la face cachée de la Lune avec des hommes à bord, c'est la mission comme on l'a décrit après ou au moment où ils partent, c'est ce qu'ils vont faire ?
C'est ce qu'ils vont faire, mais la mission est surtout pour aller voir aussi des sites d'atterrissage pour Apollo 11, la mission qui est prévue pour se poser hein, au mois de juillet 69, si tout va bien. En fait, ils vont quand même observer la face cachée parce qu'à l'époque, il y a quand même, ça a été cartographié par des sondes automatiques, mais c'est pas terrible. Il y a des incertitudes de 300 km sur la position de certains cratères. C'est quand même une cartographie assez limitée. Donc, ils ont un programme photographique et ils ont surtout un programme qui consiste à observer où on pourrait se poser sur la Lune.
Et bien sûr, il y a ce cliché emblématique qu'on voit arriver. C'est la photo du lever de terre prise par Bill Anders le jour du réveillon de Noël 68. Pourquoi est-ce qu'ils doivent attendre le troisième tour de Lune pour voir la Terre se lever à l'horizon? C'est comme ça que ça s'est passé.
Oui, parce qu'en fait, jusque-là, donc l'insertion sur orbite lunaire a bien marché. Et c'est un peu comme dans Tintin, il y a manœuvre de retournement avec la fusée de Tintin. On fait de la rétrofusée avec le moteur. Donc on avance à reculons avec le moteur devant et le pare-brise à l'arrière. Donc chaque fois qu'on apparaît, qu'on sort du bord de la Lune, on ne voit pas la Terre. Et au bout de la quatrième orbite, les astronautes orientent le vaisseau différemment, avec la tête en bas pour pouvoir mieux regarder la Lune, et amorcent une rotation. Et à ce moment-là, dans l'un des hublots, Bill Anders voit la Terre apparaître pour la première fois.
Et on va écouter un son, c'est une interview que vous avez menée en 2016 de Bill Anders, qui va raconter ce moment, la prise de la photo.
Je crois que j'étais le premier à voir la Terre. Quand nous avons tourné sur nous-mêmes et que nous avons commencé à avancer en marche avant, mais toujours avec la tête vers le bas, regardant vers la Lune. Jusque-là, nous avions avancé à reculons et nous n'avions jamais vu la Terre se lever au cours des trois premières orbites. Quand on s'est repositionné au-dessus de la face cachée de la Lune, par hasard, j'ai vu la Terre par mon hublot et je me suis exclamé « Les gars, regardez ça !» Lovell et finalement Bormann l'ont vu aussi.
Et cette photo est prise, elle aura un impact énorme sur l'humanité entière, c'est ce que vous décrivez dans le magazine.
C'est la première fois que des humains photographient la Terre, toute l'humanité sauf eux, et qu'on voit la Terre comme un vaisseau spatial toute petite au loin, dans un ciel tout à fait noir, devant un corps céleste qui est totalement mort et sans couleur. Et c'est la première prise de conscience, c'est l'une des photos du XXe siècle qui fait prendre conscience qu'on est tous dans le même vaisseau spatial et qu'il faut en prendre soin. Ça fait un bel écho aujourd'hui, 50 ans après.
Et vous êtes l'auteur d'un livre, hein, Philippe, Ils ont marché sur la Lune, chez Belin, c'est une année importante pour les missions Apollo,
oui,
évidemment.
Oui, je raconte toutes les autres explorations où là, les gars sont allés marcher
directement
et rouler un jeep lunaire sur les étendues
absolument
désolées de la Lune.
Et 2019 sera une année importante pour célébrer tout cela, évidemment. Merci beaucoup, Philippe Hénarejos. Axel, merci.
Merci.
Très bonnes vacances.
Merci.
À bientôt.